Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle édition de L'heure du crime, une émission préparée par Perrine Suquet avec Laure Broulard. Et aujourd'hui, c'est à la technique, c'est Philippe Duval qui nous accompagne jusqu'à 15h. Et à la une de l'émission, cette affaire qui est un des plus gros scandales de l'histoire de la 5e République, l'histoire du Rainbow Warrior. Mais l'histoire de cette histoire a une histoire, et on va commencer par là, parce que la raison pour laquelle on consacre notre émission aujourd'hui au Rainbow Warrior, c'est pas un anniversaire. L'anniversaire, ça sera dans quelques mois, 30 ans, mais en juillet prochain, 2015. Non, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions L'Express et Presse de la Cité, signé de Philippe Broussard et de Jean-Marie Pontault. Le titre, c'est Les grandes affaires de la 5e République. Les invités sont là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jean-Marie Pontault.
Bonjour.
Et bonjour Philippe Broussard.
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de liberté de la presse et le journalisme d'investigation est au cœur, évidemment, de votre livre, puisque on peut peut-être faire un petit tour d'horizon général de ce livre. Philippe Broussard, vous reprenez vraiment les grandes affaires qui ont émaillé absolument toutes les présidences de la République, de la 5e République, hein, gauche-droite confondue.
Le principe est assez simple, nous avons puisé dans une source infinie, que sont les archives de l'Express. Depuis le début de la 5e République, 1958, nous avons choisi une trentaine d'affaires. Il y en a bien d'autres, évidemment.
Uniquement celles qui touchent au plus haut niveau de l'État.
Voilà,
en fait,
qui touchent au plus haut niveau de l'État. Ouais. Et en puisant dans ces archives des articles en général assez longs et qui ont une cohérence et une compréhension relativement facile pour un lecteur de 2015. Donc, à chaque article correspond une sorte de mise en contexte et de présentation pour dire dans quel contexte intervient telle ou telle affaire. Et je dirais qu'en se plongeant ainsi dans les archives, on a à la fois une sorte de vérité historique du moment, de savoir comment se comportait la société à telle ou telle époque face à des révélations, face à un scandale. Et on s'aperçoit aussi que notre époque n'a rien inventé. On nous parle aujourd'hui, et nous travaillons bien sûr sur Big Malion, Cahuzac, Bettencourt, DSK, tout ce que vous voulez.
Oui, bien sûr, mais il y a eu Ben Barka.
Et il y en a eu d'autres.
Il y a eu les écoutes du canard.
Ce qui est intéressant et assez fascinant, c'est qu'effectivement, on évoque ce passé, dont Ben Barka et autres. Mais on vient aussi au plus récent, c'est-à-dire qu'il y a des articles relativement récents sur des affaires en cours, style Big Malion ou DSK, le volet Carlton, qui va arriver dans l'actualité bientôt avec le procès de Lille.
Alors, on a retenu, nous, le Rainbow Warrior, Jean-Marie Pontault, parce que je crois que vous n'allez pas me contredire, c'est l'histoire la plus extraordinaire qui vous soit arrivée en tant que journaliste d'investigation, non ?
Oui, absolument. C'est celle qui va être sans doute le plus marquée et aussi celle qui a vraiment marqué un peu l'histoire du journalisme français d'investigation. Parce que, on l'a un peu oublié, mais c'est la première histoire en France où un ministre de la République démissionne à la suite d'articles de presse. Alors qu'il n'y a pas d'enquête judiciaire, parce qu'on l'oublie aussi, mais il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire en France sur cette affaire. Parce qu'on était schizophrènes. Il y avait des gens qui avaient fait quelque chose, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait des gens qui enquêtaient, les Hollandais enquêtaient à Paris, où on ne trouvait rien. Officiellement, on ne trouvait rien. Ouais. Donc, c'est la presse qui, en révélant cette affaire, oblige le pouvoir à reconnaître l'inavouable, c'est-à-dire qu'on a envoyé une équipe faire sauter un bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même pour un gouvernement de gauche assez exceptionnel quand même. Et il y a eu un mort, ce qui n'était pas prévu, on y reviendra. Ouais. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, Hernu commence, il commence par mentir comme des arracheurs de dents, faut être honnête. Mmh. Et Hernu ment jusqu'au dernier moment. Et puis finalement, tout éclate et on connaît la vérité et le pouvoir le reconnaît. Et là, la presse a été importante.
Alors, on va entrer dans les coulisses, dans les dessous des cartes de cette enquête qui vous a valu des moments, on va en reparler tout à l'heure, dignes des meilleurs romans de John Le Carré. Mais d'abord, on va penser à ceux quand même qui, évidemment, tout le monde se souvient du Rainbow, vous connaissez en tout cas le Rainbow Warrior, tout le monde sait qu'il y a eu un attentat, mais comment, pourquoi exactement? On va remettre tout cela dans son contexte en quelques instants pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Il faut faut commencer par rappeler que depuis 1973, l'organisation non gouvernementale de protection de l'environnement, Greenpeace, tente systématiquement de s'opposer aux essais nucléaires français dans le Pacifique en envoyant sur zone des flottilles de bateaux ou en organisant des manifestations de protestation dans différents pays de la région. L'État français a d'ailleurs déjà réagi, on en parlera certainement tout à l'heure, évidemment en envoyant des membres des services spéciaux. Plusieurs bateaux de Greenpeace ont eu des pannes, difficiles à expliquer sur le moment. Tout ça pour les empêcher de rejoindre l'atoll de Mururoa. Lors de la préparation de la campagne de 1985, Greenpeace décide de frapper plus fort, de s'opposer une fois de plus aux essais nucléaires, mais en envoyant sur zone cette fois son bateau amiral, le Rainbow Warrior. Le bateau fait d'abord escale en Nouvelle-Zélande. Les services français envisagent dans un premier temps de dégrader le gazole du navire en déversant dans les réservoirs des bactéries, mais le résultat n'étant pas garanti à 100%, il est finalement décidé d'envoyer sur place un commando de 8 personnes, 8 agents de la DGSE, dont la mission sera de faire sauter les moteurs du navire avec une bombe placée sous la coque pour l'immobiliser, bien sûr, ou même pour le couler dans le port d'Auckland. L'opération va se dérouler le 10 juillet 1985. Le matériel nécessaire à l'attentat est transféré d'une camionnette de location utilisée par deux agents, les fameux faux époux Turange, dans un canot pneumatique piloté par 3 nageurs de combat. À 23h50, ce 10 juillet, une première explosion de faible puissance secoue le Rainbow Warrior. Elle est destinée à faire fuir l'équipage du navire avant le déclenchement d'une seconde explosion beaucoup plus puissante. Mais un événement imprévu survient. Un photographe néerlandais d'origine portugaise, Fernando Pereira, retourne dans le bateau après la première explosion pour récupérer ses appareils et il est piégé à l'intérieur du navire. Il meurt lors de la seconde explosion. C'est à cet instant que l'affaire du Rainbow Warrior commence. Alors bien sûr, c'est un immense scandale, un scandale qui va secouer la République au plus haut niveau, amener, comme on l'a dit, le ministre des Armées, Charles Hernu, à démissionner le 22 septembre 1985 et contraindre, deux jours plus tard, le Premier ministre Laurent Fabius à confirmer officiellement à la télévision, sur Antenne 2, que l'attentat a bien été commis par les services secrets français.
Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Tricot. J'ai rendu compte au président de la République de ces faits graves. Et nous avons estimé que des mesures immédiates s'imposent.
Là, évidemment, c'est un immense scandale, si on se remet dans le contexte de l'époque. Un Premier ministre qui va à l'Assemblée nationale pour avouer, finalement, que tout ce qui était dans la presse était vrai. On va en parler donc avec Philippe Broussard et avec Jean-Marie Ponto dans un instant. Et je rappelle que cette histoire est racontée par Le Menu dans leur livre qui vient de paraître aujourd'hui à l'Express et Presse de la Cité, Les grandes affaires de la Ve République. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire du Rainbow Warrior, racontée par Jean-Marie Ponto et Philippe Broussard dans ce livre qui vient de paraître aujourd'hui, Les grandes affaires de la Ve République. Jean-Marie Ponto, comment vous avez été entraîné dans cette histoire avec Jacques de Rogy, je crois?
Absolument.
À l'époque, dont vous parlez beaucoup d'ailleurs dans le livre, en lui rendant l'hommage qui lui est dû, hein, puisque vous rappelez au début du livre que c'est la deuxième génération finalement des grands journalistes d'investigation. Tout le monde connaît Albert Londres, Joseph Kessel, Ernest Hemingway. Il y a eu l'autre génération à partir du début des années 60 et notamment Jacques de Rogy. On y reviendra tout à l'heure. Comment vous tombez dans cette histoire-là?
Si vous voulez, quand l'affaire tombe, ça fait un bruit, comme vous l'avez dit, absolument invraisemblable, et on cherche de quoi il s'agit, qui sont ces gens-là, parce qu'il faut rappeler, ce sont censés être des touristes suisses. Bon. Et évidemment, là, ils ont des passeports suisses. Et la France, les services, tout le monde dit, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Et à ce moment-là, commence à monter quelque chose de très fort, qui, c'est-à-dire que les services eux-mêmes, à la fois les services officiels disent tout ça est faux, on essaie d'enfumer les gens avec des histoires de mercenaires, de type de oui. services anglais, de coups fourrés, oui. et puis il y a des gens, au sein même des services, il faut le dire, qui sont absolument scandalisés parce qu'on abandonne leurs hommes. Et leurs hommes, ils risquent très, très, très gros. Oui. Et en plus, là, ils trouvent que l'opération a été stupide parce que l'histoire, par exemple, des passeports, ils auraient eu des passeports français, ils s'en sortaient sans doute. Donc, ils commencent à monter. Et nous, on essaie, dans tous les contacts qu'on a avec des gens, et puis par des intermédiaires, avec des processus de sécurité absolument invraisemblables, on finit par rencontrer des gens qui vont nous donner l'identité. L'un des premiers contacts qu'on a...
L'identité réelle des gens qui sont là.
Et la première révélation qu'on a du nom, on me demande d'aller dans une cabine téléphonique qui est porte des ternes, où il y a trois cabines. Bon. Et on me dit, vous rentrez à la cabine, vous prenez le téléphone, et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, vous bougez plus. Bon. Et j'ai pensé qu'ils allaient appeler la cabine. Bon.
Oui, bien sûr.
Et donc j'arrive, je me mets à la cabine, et à ce moment-là, quelqu'un tape à côté de moi très discrètement, et le type était dans la cabine d'à côté.
Oui, parce qu'il y a trois cabines.
Dans la cabine d'à côté, avec le téléphone, il me dit, vous ne me regardez pas, vous parlez, vous ne me regardez
pas. Vous faites semblant de téléphoner, mais en fait...
Ce qui était très habile, parce qu'effectivement, si les cabines avaient été mises sur écoute, on n'aurait rien su, et on pouvait se retrouver comme ça. C'est comme ça qu'effectivement, avec Jacques Dorogy, ils vont nous donner le nom de Dominique Prieur, qui est donc la femme touriste, soi-disant touriste, qui est en réalité le premier officier du service action de la DGSE, ce qui est un peu difficile, qui avait fait avant des missions au Liban, qui est une fille assez solide, qui a un mari qui est effectivement capitaine des pompiers de la caserne du Vieux-Colombier. Et on va sortir ce nom, c'est-à-dire la preuve absolue que ce sont les services français qui sont bien dans l'affaire.
Alors évidemment, dans ces cas-là, et c'est aux deux journalistes que je parle, parce que c'est valable pour les autres affaires plus proches de nous, on vous accuse évidemment de mettre en danger les membres de la DGSE en révélant leur nom, on vous soupçonne d'avoir été manipulé par des gens qui sont des ennemis de la DGSE. Non, c'est les choses, Philippe Bossa, que vous avez connues dans d'autres affaires, je suppose.
Oui, on a connu dans d'autres affaires, mais si ce n'est que je parle sous le contrôle de Jean-Marie, parce qu'il a vécu directement cet épisode, mais les personnes qui prennent contact avec l'Express à l'époque, avec Jacques Dorogy ou avec Jean-Marie... Ouais. Ce sont des gens que les deux journalistes en question connaissent parce que il y a des sources. Voilà, c'est un milieu dans lequel on finit par évoluer, par avoir des relations de confiance. Oui. S'ils s'adressent à Dorogy et à Pontos, c'est parce qu'ils savent que ce sont des journalistes crédibles, qui sont en quête de la vérité et qu'ils n'hésiteront pas à le publier. Donc ça, c'est un critère très important. Donc je pense que Jean-Marie, quand il a cette discussion dans la cabine téléphonique, sait qui est en face de lui et quel crédit apporter à ses.
De toute façon, vous recoupez toutes les informations, j'imagine, mais ça doit être difficile dans le monde des services secrets.
Les services eux-mêmes, ils sont bouleversés, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays ami. Donc on aurait pu négocier, mais couper complètement les ponts et laisser, on n'abandonne pas les soldats de l'ombre. Même, il y a des négociations secrètes, mais on ne les abandonne pas. Et donc, ils n'ont pas accepté d'être abandonnés.
Pour que les auditeurs de RTL comprennent bien la situation, on est un peu comme dans Mission Impossible, moins Tom Cruise. C'est-à-dire que vous avez une équipe chargée de quelque chose et qui se retrouve coincé à un endroit. Voilà, c'est ça. Et accusé de choses graves, puisqu'ils sont accusés de potentiellement de meurtre. Donc,
bien sûr, les pas potentiellement, ils sont accusés.
Ils sont accusés de meurtre. Ils peuvent se retrouver en prison pour très très longtemps. Et du coup, à Paris, leurs collègues se disent, attendez, on va pas les laisser tomber comme ça, on va pas nier leur existence, c'est pas possible. Voilà pourquoi ils font la démarche de médiatiser en quelque sorte l'affaire.
Il faut dire en même temps qu'il y a une demande de la justice, de la police néo-zélandaise aux Français, et qu'il y a des enquêteurs néo-zélandais qui viennent enquêter étaient en France, qui sont aidés par des policiers français. Et les policiers français, dès qu'ils ouvrent une porte, ils tombent sur une barbe de la DGSE. Donc ils ont tout de suite compris. Et ils vont protéger les Français. Donc on est dans une situation complètement de schizophrénique.
Ce qui est extraordinaire et que vous rappelez dans le livre, c'est le mari, j'allais dire le pauvre mari, le vrai mari de la fausse épouse Thurange, qui lui est capitaine de pompiers, je crois. Et sa femme ne lui a rien dit, évidemment. Les agents secrets sont tenus au secret. Comment il découvre que sa femme a été arrêtée
C'est vrai que
ça, à Auckland, c'est extraordinaire.
Ils sont militaires tous les deux.
Oui.
Donc, contrairement aux autres couples, lui, il sait qu'elle est militaire. Mais il ne connaît pas ses missions. Voilà. Il s'étonne simplement qu'elle aille acheter des vêtements d'été pour partir en mission. Mais parce que c'est l'hiver.
Oui.
Parce qu'on est dans l'autre côté des antipodes. Oui. Mais il ne sait pas. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, un soir, il ouvre sa télé. Il est en train de se faire une omelette. Il m'a raconté. Oui. Et tout d'un coup, il voit deux Français arrêtés et deux Suisses arrêtés. Oui. Il voit sa femme. Et 30 secondes après, le téléphone sonne et la DGSE lui dit « On a un problème ». Il dit « Oui, je suis
je vais le voir à la télé bon. ». Alors, on va faire une première pause. Ensuite, on va entendre d'ailleurs un certain nombre de documents qui ont été diffusés à l'époque, ici, sur l'antenne d'RTL. Et puis, on va faire ce que vous faites dans le livre, c'est-à-dire montrer par le menu comment toute cette opération s'est montée, parce que ça a été quand même, finalement... une super production, hein. Bon, même si elle a raté à la fin, c'était quand même très réfléchi, mal réfléchi, mais très réfléchi.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors là, on est en 1985, l'attentat contre le bateau amiral de Greenpeace, le Rainbow Warrior, coulé à la suite de deux explosions de bombes placées sous la coque du bateau dans le port d'Auckland, avec tout ce qu'on a rappelé il y a un instant. On va revenir sur tout ce qui a précédé, parce que ça fait de longues années qu'il y a cette espèce de jeu de chat et de la souris entre Greenpeace et les services français. Mais d'abord, un document RTL qui date du lendemain de l'attentat. On est le 11 juillet. La présidente de l'époque de Greenpeace, Louise Trussel, est jointe au téléphone par RTL et elle donne sur notre antenne les toutes premières explications qu'on peut donner quelques heures après l'attentat sur ce qui s'est passé dans le port d'Auckland.
Le bateau a coulé en 4 minutes. L'équipage a pu s'en sortir à l'exception d'une personne, notre photographe Fernando Pereira, qui a été repêché par la marine néo-zélandaise quelques heures plus tard.
Et pourquoi choisir la cible de Greenpeace ?
Pourquoi on entre toujours encore dans le domaine de l'hypothèse. Nous avons fait une campagne dans le Pacifique pour évacuer des gens contaminés par les essais nucléaires américains, dans les îles Marshall, dans le Pacifique donc. Nous avions l'intention d'aller à Mururoa, en Polynésie française, pour nous opposer aux essais nucléaires français. Dans le cadre de notre campagne en faveur de l'arrêt de tous les essais nucléaires, la question se pose, est-ce qu'il y avait, oui ou non, un lien entre notre campagne et les deux explosions qui ont coulé le bateau? Pour l'instant, nous n'avons aucune certitude quant aux causes.
Donc là, on est le 11 juillet et le lendemain, 12 juillet, à 9h du matin, la police néo-zélandaise interpelle donc les fameux deux touristes suisses munis de faux papiers, donc les faux époux Turange. Et Jean-Marie Ponto, pourquoi sont-ils arrêtés si vite? En fait, il y a une explication, c'est qu'ils avaient loué une camionnette pour transvaser, si j'ose dire, d'un Zodiac dans cette camionnette, le matériel qu'il fallait pour l'attentat, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est le fameux grain de sable, c'est-à-dire qu'ils ont loué une camionnette, ils sont, eux, là pour récupérer les plongeurs, enfin, le matériel des plongeurs.
Le matériel des plongeurs,
qui
sont à bord d'un voilier, voilà, dont on n'a pas encore parlé, l'UVA, deuxième équipe.
Voilà, ouais. Enfin, deuxième équipe. Mais là, le soir, quand les plongeurs reviennent, ils attendent sur le quai, ils récupèrent le matériel. Et voilà, il y a un vigile qui voit quelque chose et qui pense que c'est des voleurs.
Oui, parce qu'il y a eu des cambriolages dans les semaines
sur le port. Et qui se dit, qui s'y tient, et qui note le numéro de la camionnette. Ouais. Et donc, eux ne s'en rendent pas compte, ils partent, ils vont cacher, ils vont enterrer le matériel, et il faut dire, qu'ils ouvrent la radio le lendemain et qu'ils apprennent qu'il y a eu un mort, ce qui n'était pas, pas prévu. Et ce qui leur donne un coup terrible, parce qu'ils se disent, bon, un bateau, mais à mort, on n'en sortira pas. L'étau va se refermer sur nous. D'accord, et effectivement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont sur une île, ils vont attendre juste 24 heures, le temps de laisser à tous les autres le temps de partir, et eux, ils rendent la camionnette. Et quand ils rendent la camionnette, ils vont à l'agence, ils voient le type passer derrière le truc, donner un coup de fil, et paf, il y a les voitures de police.
Voilà. Comment ça s'est vraiment passé.
Bêtement pincé.
Alors, revenons maintenant en arrière avec le contexte, Philippe Broussard, de tout ça, c'est le début, c'est le centre d'essai du Pacifique, qui va tout de suite cristalliser le combat, finalement, contre les essais de Greenpeace.
De Greenpeace et d'autres. Je crois qu'à l'époque, les services français, alors est-ce que c'est pour justifier quelque part, a posteriori, ce qu'ils ont pu envisager de faire, mais à l'époque, les services français avaient la crainte non seulement d'une opération importante de Greenpeace, une opération plus importante que celle qu'elle avait menée
en 85
précédemment.
Oui.
Et surtout, pour quelles raisons, selon quelles informations, ils avaient, semble-t-il, des indications selon lesquelles des services, disons russes ou pro-russes, auraient infiltré les équipes de Greenpeace pour s'approcher au plus près de Mururoa. Bon, la guerre froide était finie depuis un certain temps, je ne sais pas
enfin,
trop. Bon, enfin bref, bon, ça peut être une explication. Donc en gros, il y avait danger.
Ouais.
D'où la nécessité, d'après les services français, de monter une opération à minima pour infiltrer Greenpeace, voir quelles étaient leurs intentions réelles, voire plus si affinité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut les neutraliser, comme on dit pudiquement, et en l'occurrence placer une bombe.
Et là, Jean-Marie Ponton, on retrouve l'univers de John Le Carré, parce que il va y avoir une agence, une femme des services secrets qui va être infiltrée.
Qui se fait passer pour une archéologue et qui va rencontrer les gens de Greenpeace en France, et ensuite qui va être envoyée là-bas, et qui pendant trois mois, je crois, va faire des rapports, des repérage en disant voilà comment, voilà où arrive le bateau, voilà ce qui se passe. Et elle va disparaître avant avant l'opération.
Tout a été parfaitement préparé. Il y a eu un déblocage de fonds, semble-t-il, sur les fonds secrets de Matignon. Enfin bref, il y a eu tout un financement de l'opération. C'est lourd à gérer.
En réalité, je crois qu'ils ont eu peur que le bateau qui était très important de Greenpeace, on ne puisse pas l'arrêter. C'est-à-dire, ils ne voyaient pas comment pouvoir le bloquer. Ils avaient peur d'une publicité énorme faite autour de ça. Ils ne pouvaient pas les tirer dessus. Donc, ils ont d'abord pensé effectivement mettre ce que vous rappelez, dans le moteur, chose ça. Et puis, apparemment, quand même, au plus haut niveau du ministère de la Défense, c'est-à-dire Ternu, on a dit non, couler. Il faut couler. Et là, on a monté une énorme opération avec deux bombes pour justement qu'il n'y ait pas de mort. Mais on a mis une dizaine de personnes parce qu'il fallait amener les bombes avec effectivement des marins qui louaient un bateau qui partait de la Nouvelle-Calédonie qui amenait les bombes.
C'était un voilier qui s'appelait l'Ouvéa.
Exactement, un voilier qui s'appelait l'Ouvéa. Il y avait trois marins qui étaient effectivement
des nageurs de combat.
Et puis un médecin militaire qui était là pour voir si tout ça allait bien se passer quand même.
C'est un ancien des services.
Qui est un ancien des services, absolument, qui est parti après faire du ski pendant l'opération.
Oui.
Et puis ensuite, ils ont les bombes, ils ont donné les bombes à l'équipe des Turins, qui les ont amenées aux plongeurs.
Oui.
Le soir, les plongeurs partent donc et sont récupérés ensuite. Mmh. Et ils vont ensuite détruire le matériel. Donc c'est une opération très compliquée, très longue, avec beaucoup de gens sur place.
Des plongeurs qui avaient suivi un entraînement spécifique sur la base d'Aspreto en Corse, spécialisé dans ce domaine.
Oui, c'était entraîné. Et d'ailleurs, l'opération était réussie techniquement, mais il y a eu ce drame, quoi, quand même.
C'est ça, il y a eu ce mort.
Personne n'avait prévu que quelqu'un reviendrait dans le bateau, puisque la première explosion a été faite pour faire fuir tout le monde, en fait.
Exactement, c'était vraiment fait pour ça. Et ensuite, la deuxième bavure, évidemment, c'est ces papiers suisses. Donc personne ne comprend, parce que quand les Turins sont arrêtés, s'ils avaient eu des papiers français, il n'y avait pas d'éléments, vraiment. Ils étaient vus comme ça, mais il n'y avait pas d'éléments. En plus, la nuit, ils étaient embourbés en mettant les trucs, ils ont eu leur aventure extraordinaire. Mais si, évidemment, dès qu'il y a un télégramme aux Suisses, les Suisses disent, nous, on ne sait pas qui c'est. Donc là, c'est fini. Quoi. Et ça a été très dur. C'est dur pour elle.
Mais là, j'anticipe un peu, parce qu'on va parler tout à l'heure de cette deuxième équipe, alors que les membres de cette deuxième équipe avaient ce qu'on a appelé dans une autre affaire les vrais faux passeports.
Oui, exactement.
Ils avaient des vrais faux passeports français qu'on leur avait fabriqués à Paris. évidemment, il y a l'enquête de la police néo-zélandaise. Il y a tout ce que vous avez raconté tout à l'heure avec les autorités françaises qui ont gêné aux entournures, mais en même temps, la Nouvelle-Zélande a lancé un mandat d'arrêt international contre les membres de cette deuxième équipe parce qu'on a retrouvé le voyeur, on n'a pas retrouvé les gens, mais on a retrouvé une pellicule photo. Ils s'étaient pris en photo parce qu'ils jouaient des touristes, alors ils se sont dit, tiens, on va se prendre en photo.
Oui.
C'est gênant pour des agents secrets.
Mais oui, parce que quand ils ont quitté une partie de l'équipe, les qui ont posé la bombe sont partis ensuite à Tahiti. Et là, ils ont fait des touristes, ils ont fait du rafting, ils ont été pris en photo.
Oui.
Mais on a trouvé, même plus sur le bateau, les Français ont trouvé, ils ne l'ont pas dit à l'époque, ils ont trouvé des notes de frais. C'est-à-dire que les types avaient les hôtels, parce que ça, c'est l'administration française. Il fallait qu'ils ramènent des notes de frais. Donc on a trouvé des notes de frais des hôtels et des restaurants, ce qui est absolument invraisemblable. Quand même.
Alors, le 4 novembre 1985, Alain Maffard et Dominique Prieur, puisque ce sont leurs vrais noms, comparaissent devant la cour d'Auckland pour des premières auditions. Bon, ils vont plaider coupables. Et puis le 22 novembre, donc 1985, qui sont condamnés à 10 ans de prison. Et ce 22 novembre, quelques heures seulement après l'annonce du verdict sur RTL, on peut entendre la réaction à chaud de Dominique Prieur. Elle est interrogée par Philippe Nécan d'RTL. Le document était diffusé dans RTL Matin. La première question du journaliste à Dominique Prieur, c'était « Comment allez-vous ?»
Comme quelqu'un qui vient de s'entendre condamner à 10 ans de prison, j'avoue, je ne sais pas quoi penser, je suis sur le coup, là.
Quand vous êtes parti en Nouvelle-Zélande, vous pensiez à toutes ces conséquences ?
Non.
Aujourd'hui, ça serait à refaire.
Lorsque une mission se termine comme cela, généralement, on ne continue pas.
Et le commandant Maffard, vous l'avez vu lors de ce procès, comment réagit-il ?
Surpris quand même de la sévérité, mais vous dire ce que pensait Alain, c'est difficile, parce que nous étions peut-être dans le même box, mais enfin séparés quand même par deux gardiens, et nous n'avons pas eu vraiment l'occasion de nous exprimer. Hein.
Alors, quelles sont vos conditions de détention aujourd'hui ?
Je pense qu'elles vont changer, qu'elles seront nettement moins agréables.
En fait, ils vont être incarcérés jusqu'en juillet 86. Il va y avoir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un accord sous l'égide de l'ONU. La France va donner 7 millions de dollars de dommages et intérêts à Nouvelle-Zélande, assorti des excuses de la France. Et puis, les deux agents secrets français vont être transférés dans un premier temps sur un atoll de Polynésie. Puis ensuite, ils vont être rapatriés en France. On fait une pause et puis on revient à l'enquête, évidemment, au journalisme d'investigation. Et Jean-Marie Ponto, Philippe Brossard, vous allez nous raconter comment cette enquête débouche sur la certitude qu'en fait, François Mitterrand était au courant.
L'heure du crime sur RTL.
Les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Philippe Broussard, Jean-Marie Ponto. Philippe Broussard est rédacteur en chef du service enquête de l'Express. Jean-Marie Ponto, vous avez travaillé très longtemps à l'Express, au Point aussi, et comme journaliste d'investigation et spécialiste dans les affaires policières et judiciaires. On parle du dessous des cartes de cette enquête que vous avez menée à l'époque avec Jacques Derogi sur le Rainbow Warrior. Et rappelons que la conséquence de cette enquête, alors c'est pas le Watergate, c'est pas le président de la République qui démissionne, mais c'est quand même, et ça s'était jamais produit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la démission d'un ministre important, le ministre des Armées. Comment en arrivez-vous, parce que c'est vous qui faites exploser cette bombe, en révélant dans les colonnes de l'Express que François Mitterrand était au courant de toute l'opération?
Oui, parce qu'il faut quand même. Il y a eu 3 mois absolument surréalistes, effectivement. On y est totalement. On avait sorti.
Vous publiez ça fin août. Hein,
c'est ça. On avait
10 juillet l'attentat. Fin août.
On avait publié les noms. Ensuite, Le Monde en remet une couche en publiant cette fameuse troisième équipe. Et il y a un moment où, quand même, on arrive, nous, en troisième rideau. On avait les noms des gens qui avaient posé la bombe. Et c'est ça, finalement, qui finit par faire exploser les choses. C'est qu'on donne des éléments, et là Fabius pique un coup de colère en disant, attendez, il y a des choses qui sortent dans la presse, je ne suis pas au courant, c'est intolérable. Et on est dans une échelle où il y a Ernu, Fabius et le président. Bon, donc il y a quelqu'un qui va sauter. Qu'est-ce qui s'est vraisemblablement passé, parce qu'on le sait maintenant, c'est que on a demandé au service Action DGSE de monter cette opération. Ernu a voulu une opération très très forte, en voulant soit évidemment épargner des vies, mais quand même qu'on fasse vraiment couler.
Il fallait
couler ce bateau. Évidemment, l'amiral Lacoste a été rendre compte.
L'amiral Lacoste, c'était lui qui dirigeait la DGSE.
Le patron de la DGSE. La DGSE, vous savez, le président recevait le DGSE une fois par semaine qui visait. Ce qui a dû se passer, c'est que, évidemment, on a vendu, si j'ose dire, au président un plan parfait. Il n'allait pas avoir de banc, tout ça allait se passer très très bien, il n'allait pas avoir de trucs. Et que Mitterrand a donné son feu vert. C'est évidemment indispensable. Simplement, je pense qu'il ne l'a pas dit à tout le monde. Il ne l'a probablement pas dit à Fabius, et ni au ministre de l'Intérieur, Jox, qui s'est retrouvé lui aussi dans une position impossible avec les policiers néo-zélandais d'un côté, ces policiers de l'autre, et qui ne voulaient pas, qui ne savaient pas, et qui ne voulaient pas savoir en plus.
Philippe Broussard, est-ce que ce qu'on vient de dire là, ça révèle une pratique, sous la 5e République, oui, là en l'occurrence sous Mitterrand,
pas tout à fait illogique que le président soit informé de choses aussi importantes.
C'est incroyable que le Premier ministre ne le soit. Pas,
ça, c'est,
même,
non, effectivement, mais ça révèle aussi les années Mitterrand, parce que quand vous regardez avec un peu de recul tout ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est quand même c'est l'âge d'or des affaires, pour être très clair. Ouais. Et vous avez toujours le personnage de Mitterrand dans l'ombre, qui a un art de l'esquive extraordinaire. Il passe entre les gouttes. Et en l'occurrence, on sent chez lui, comme souvent chez Mitterrand, une forme de... J'allais dire d'appétit pour ces choses-là, rester le maître des marionnettes un peu dans l'ombre, et puis après s'effacer tranquillement. Et en l'occurrence, la victime a été, cela dit, c'était justifié, Charles Hernu. Ouais. Mais cette attitude de Mitterrand dans l'ombre, on la retrouve dans pas mal d'affaires.
Ouais. Personne à votre connaissance, Jean-Marie Ponto, ne s'est dressé contre ce plan en disant « Mais attendez, on va au casse-pipe. »
Si, je crois que les exécutants, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réagi si mal après. C'est que les exécutants, y compris Maffard et donc Alain Maffard et Sophie et Dominique Prieur, ont dit on va à la catastrophe. C'est mal foutu.
Parce que vous avez fait un livre après avec Dominique Prieur. Comment elle a vécu ça, elle? Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Elle l'a vécu évidemment très mal.
Mais qu'on sache que ça allait mal se terminer.
Bien sûr, quand ils partent, ils se disent on va au casse-pipe. Ça, c'était clair.
Pourquoi?
Parce qu'ils trouvent que l'opération est trop compliquée, qu'il y a trop d'intervenants, qu'il y a trop de risques. Et puis, il y a la cerise, effectivement, des fameux passeports suisses. Ouais. Ils se disent, bon, alors, c'est des militaires, ils exécutent, ils font le travail. Il y a d'ailleurs un superviseur sur place, qui est un commandant, qui va réussir lui aussi à partir. Donc, ils sentent, elle a dit dans l'avion, je vais pas rentrer. Elle a dit, on va y aller, parce que c'est mal foutu. Et quand il y a un mort, ils sont coincés. Donc ça a été très dur. Alors après, heureusement, il y a eu quand même des arrangements judiciaires.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont réussi à sortir assez vite.
Ouais. Au-delà de cette affaire, il faut se souvenir aussi qu'on est dans un contexte général. Donc François Mitterrand est au pouvoir depuis 4 ans. On commence très nettement à comprendre ce qui se passe autour de lui dans ce qu'on a appelé par la suite la fameuse cellule de l'Élysée. Donc on est dans cette ambiance un peu coup bas, coup tordu, basse police. Donc j'allais dire, je ne dis pas que cette histoire est directement le résultat de ce contexte, mais ça peut l'expliquer en partie, notamment en ce qui concerne la responsabilité des hommes de pouvoir.
Et il y a une scène extraordinaire, c'est qu'après, donc, ils acceptent de plaider coupable. Et donc, parce qu'il y a un avocat qui leur dit, Suez Larivière, leur dit, il faut plaider coupable, sans ça, ça va être une catastrophe. Donc, comme on plaide coupable dans le système américain, il n'y a pas de procès, ça dure un jour. Un jour.
Oui. Voilà. Ça évite coupable, le procès, voilà. Il y a un arrangement.
Il y a un arrangement qui fait que ce n'est pas un crime. On arrange un peu le système. Ils prennent 10 ans. Ouais. Au bout d'un an, ils sont mis dans un îlot à côté d'un îlot français qui est une piste d'atterrissage en réalité française à eau. Et au bout de 3 ans, je raconte parce qu'elle me racontait, tout d'un coup, donc il y a la cohabitation, et puis ils voient tout d'un coup le Concorde se poser, et Chirac, qui était en voyage dans la zone, qui descend, qui va les voir. Et
Concorde sur cet îlot.
Sur cet îlot, parce que c'est un îlot de dégagement, justement, militaire pour les gros.
D'accord,
les gros
porteurs. Donc il y a une piste immense.
Et Chirac, leur dit en gros, bon, écoutez, vous tombez enceinte, vous vous débrouillez, quand vous êtes enceinte, 15 jours après, je vous rapatrie pour raisons sanitaires. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être pas 15 jours après, mais enfin, assez rapidement.
On a fait venir le mari.
Et donc,
le mari était là, donc le vrai mari. Le faux époux n'a pas été jusque-là, quand même, dans l'histoire.
Mais donc, c'est comme ça que finalement, ils sont revenus. Ce qui, d'ailleurs, était en même temps un coup politique, parce qu'on les faisait revenir en plein réputation, et Chirac disait, c'est moi qui les ai fait revenir. C'est pas non plus dénué d'arrière-pensée, quand même.
Alors, on va faire une pause. On va entendre un autre document RTL après la pause. C'est intéressant parce que il y a eu évidemment beaucoup de contre-feux allumés par le pouvoir politique. On a dit pique-pendre évidemment des journalistes, qu'on a accusé de tous les maux. Et le Premier ministre, quand même, qui a dû, je ne sais pas s'il s'est exprimé après ou pas là-dessus, Laurent Fabius, mais la pilule doit être quand même dure à avaler. Et il est contraint finalement à écrire une lettre au président de la République. Et on va entendre la lecture dans un journal d'RTL d'un large extrait, on va dire, de cette lettre. Et puis, ensuite, et parce que les auditeurs qui n'ont pas toujours l'esprit bien tourné, se demandent s'il n'y a pas eu des pressions contre vous directement ou votre journal. Bon, on va parler de ça, parce que ça revient d'ailleurs dans toutes les histoires de journalisme d'investigation. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on va écouter tout de suite ce document auquel je faisais allusion il y a un instant, diffusé sur RTL le 20 septembre 1985. En fait, le 20 septembre, c'est là qu'on apprend la démission de Charles Hernu, la révocation du chef de la DGSE, l'amiral Lacoste. Et on apprend aussi que le Premier ministre rend public une lettre qu'il a écrite au président François Mitterrand. Éric Gendry, sur l'antenne d'RTL, donc le journaliste Éric Gendry, lit donc un extrait de cette lettre. Écoutez.
Charles Hernu démissionne. L'amiral Pierre Lacoste, chef de la DGSE, est révoqué. C'est peu après 13 heures que ces deux informations sont tombées sur les téléscripteurs. Laurent Fabius vient d'écrire une lettre au chef de l'État. Voici le contenu de la lettre du Premier ministre. Dans l'affaire de l'attentat contre le Rainbow Warrior, j'ai toujours considéré qu'une exigence devait conduire le gouvernement français à la recherche de la vérité. C'est pour établir cette vérité que j'ai chargé, avec votre accord, le 8 août dernier, monsieur le conseiller d'État Tricot, de mener une enquête. C'est en fonction de la même exigence que le 27 août, après la publication du rapport de monsieur Tricot, j'ai immédiatement demandé au ministre de la Défense de poursuivre sans délai ses investigations, en même temps qu'il procéderait à un examen attentif des carences de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, pour qu'il y soit remédié. C'est toujours pour rechercher la vérité que le 17 septembre, écrit Laurent Fabius, dès la publication d'affirmations nouvelles à propos de l'application des services français, j'ai demandé, après vous en avoir rendu compte, au ministre de la Défense d'inviter les responsables cités dans ces articles à lui indiquer par écrit s'ils avaient donné l'instruction ou reçu une information relative à la préparation de l'attentat contre le Rainbow Warrior. Les généraux Lacaze et Saulnier ont clairement indiqué que non. L'amiral Lacoste, directeur de la DGSE, a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter aux déclarations qu'il avait faites à M. Tricot. Le ministre de la Défense a demandé alors au directeur de la DGSE s'il était en mesure de répondre précisément et par écrit aux questions suivantes. Y avait-il une autre équipe ou d'autres agents de la DGSE en Nouvelle-Zélande? Les initiales, telles qu'elles figurent dans certains articles de presse, correspondent-elles à celles d'agents de son service? L'amiral Lacoste, à ces deux questions, a refusé de répondre au ministre de la Défense en invoquant sa conception de ses devoirs.
Jean-Yves Ponto, l'amiral Lacoste, vous l'avez rencontré à l'époque?
Oui, on l'avait vu plusieurs fois, il avait évidemment nié, et on a eu, juste avant cet épisode, quand on a les noms, et même les photos, alors on le rappelle, on lui dit, on a les noms, et il dit « j'arrive ». Il débarque à l'Express et on lui montre. Et là, il y a eu un moment exceptionnel parce qu'il dit c'est vrai. Alors, quand quelqu'un qui vous a menti, un truc, mais il nous dit c'est quand même. Il nous dit vous ne pouvez pas publier les noms parce que ces gens-là ont fait des missions.
Voilà ce que je disais tout
si
à l'heure.
Si on met un nom, vous allez les mettre en danger. Et d'ailleurs, on n'a pas publié les noms. On a mis effectivement les initiales et les grades. Oui, mais ça revenait au même. Ouais, ça revenait au même. Mais c'était un moment quand même assez important.
Est-ce qu'il y a eu des pressions à part ça?
Ça, c'était une pression importante. Oui. Sincèrement, non. On n'a pas eu vraiment de pression. Oui. Mais on n'arrivait pas à croire que c'était. Enfin, je me souviens de la dernière conférence de presse dernière où il disait c'est pas vrai. On s'est dit c'est pas possible que j'en mente comme ça. Moi, j'ai beaucoup appris sur le mensonge des hommes politiques à cette époque.
Philippe Broussard, dans d'autres affaires traitées par l'Express, puisque vous avez revisité pour ce livre un grand nombre d'affaires, il y a eu des tentatives au plus haut niveau, d'actionnaires même, non, du groupe de presse.
Écoutez, alors je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que certains auditeurs ne me croiront peut-être pas, mais pas tant que ça. La pression qui est exercée sur nous, c'est la pression de...
Mais sans succès en général.
La pression, il y a pression, c'est la pression de notre direction pour dire, est-ce que vous êtes certain des infos que vous allez... Ça paraît évident, mais il faut le rappeler. Et jusqu'à preuve du contraire, on a toujours pu faire le boulot.
À partir du moment où le journaliste dit à la direction, j'ai sourcé mon information,
je vais prendre un exemple récent. Il y a quelques années, une fameuse affaire concernant l'espionnage chez Renault. Nous avons sorti des informations exclusives, un vrai gros scoop.
Oui.
Renaud était et toujours un annonceur important du journal, ça ne nous a pas empêché de le faire.
Oui. Mais vous dites dans le livre, Jean-Marie Ponto, que c'est une protection le fait qu'un journal marche bien aussi.
Oui, bien sûr.
Fait, ils peuvent retirer leur pub
une fois, mais
il faudra bien qu'ils reviennent chez nous.
Voilà. La santé financière d'un journal, c'est un garant de liberté.
La seule pression qu'on ait réellement, c'est en fait celle de, et c'est celle de l'époque, c'est celle de la dictature de l'urgence. J'emploie des grands mots, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un tel flot médiatique, on l'a vu lors des attentats par exemple, et il y a toujours un moment où nous, en tant que journalistes, on doit se poser la question de se dire, voilà, est-ce que là, je vais pas trop vite? Est-ce que j'ai bien vérifié deux fois, trois fois? Est-ce que je suis certain de ce que j'avance? Et cette exigence-là a parfois du mal à résister au flot continu de l'actu.
C'est pour ça que c'est important de faire des livres, parce que ça donne du recul.
C'est important de faire des livres, et c'est important aussi de continuer à faire des enquêtes, Jean-Marie Ponto, parce que quand, si on veut boucler la boucle, quand vous parlez de l'époque de Rogy, qui va reprendre ce flambeau, et d'autres, bien entendu, où on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans... Est-ce qu'il y a toujours la flamme de l'investigation ou est-ce que...
Moi je ne suis pas si pessimiste que ça. Je pense que les gens ont toujours envie, le public a toujours envie d'avoir des enquêtes, fouiller, travailler. C'est vrai que le temps, ce que vient de dire Philippe, est absolument vrai. Ça va tellement vite, maintenant, les infos. Ça, on peut se dire que ça serait... Il faut imaginer cette affaire maintenant.
Aujourd'hui,
Tous les quarts d'heure, il y aurait eu des révélations, des nouveautés. Donc ça veut dire qu'il faut être peut-être encore plus exigeant sur le récit, mais je crois qu'on a toujours un besoin démocratique d'enquête approfondie et fouillée.
Et le temps est plus que jamais un luxe dans notre métier.
Voilà, bien sûr. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci Philippe Brossard, merci Jean-Marie Ponto. Je rappelle donc la publication aujourd'hui de ce livre, Les grandes affaires de la Ve République, préfacé par Christophe Barbier. C'est bien normal puisque c'est une coédition. L'Express Presse de la Cité et l'affaire du Rainbow War est une affaire parmi
une trentaine
d'autres donc qui restent à découvrir dans ce livre. L'émission est terminée, on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.